A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, bienvenue pour ce 197e épisode du podcast de Kebdo. Au programme aujourd'hui, les fidèles l'auront compris, deuxième partie de notre Power Ranking de mi-saison. On va parcourir enfin les équipes du haut de tableau NBA. Avant de rentrer dans les détails, j'accueille nos deux intervenants de grande qualité du jour. Priorité aux anciens, aux tauliers, avec Pierre qui est là. Comment ça va Pierre ?
Ça va Adrien, super, salut tout le monde.
On va en plus pouvoir parler de ton cher Thunder aujourd'hui, ouais. Donc tout va bien.
Très bien même.
Autre intervenant aujourd'hui, un de mes co-rookies qu'on n'avait pas entendu depuis quelques semaines. Les fans des Spurs n'auront pas le plaisir de le voir s'énerver sur leur équipe favorite. C'est Madiane, bien sûr. Comment va-t-il, ce cher Madiane ?
Ça va très bien, et vous ?
Eh bien, très bien. Écoutez, on est au complet. Je vous rappelle qu'on peut, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming, Twitter et donc Apple Podcast, Podcast Addict, SoundCloud et même Deezer, d'ailleurs, maintenant. Donc vous avez le choix et c'est parti pour le 197e épisode. Au programme du jour, donc, notre top 14 du Power Ranking. Un rappel rapide du système de vote, chaque membre a effectué un classement. Tout a été agrégé et pondéré selon la place de chaque équipe. On est arrivé à un classement et on a regroupé les équipes par tiers, les équipes proches, donc par groupe plus ou moins équivalent. Et aujourd'hui, on attaque le top 14, comme je disais, rien à voir avec le rugby, bien sûr. Et comme la semaine dernière, on va faire dans l'ordre croissant, on va commencer par le dernier tiers, le quatrième donc pour nous. Un tiers qu'on pourrait qualifier d'outsider, mais surtout d'inattendu, je pense, puisqu'on retrouve donc les Pacers à la 14e place, Thunder 13e et les Mavs en 12. On est donc sur des équipes qui devraient a priori confirmer leur place en playoff, mais qui sont encore un cran en dessous quand même de pouvoir viser... quelque chose et même viser le titre. Donc on va commencer peut-être par la surprise de ce tiers. Je vais te donner la parole Pierre avec le Thunder. Le Thunder qu'on avait du mal à situer en début de saison, que ce soit en termes de niveau de jeu ou de projet. Et finalement, grosse performance. Le Thunder est sixième à l'heure où on enregistre. Mm-hmm. Ils sont bien installés. Pierre, question directe. Est-ce que le Thunder surperforme ? Est-ce que c'est un coup d'un an ou est-ce que finalement... Voilà, on pose des bases solides de construction, évidemment, avec les nombreuses assets qui ont été récupérés cet été.
Surperforme, non, je pense pas. En fait, on a beaucoup, je pense, sous-estimé le talent qu'il y avait dans cet effectif et on se basait plus sur les potentielles pertes ou sur les problématiques de mental, on va dire, par exemple, la motivation de Chris Paul, les potentielles blessures de Gallinari. Alors, Thunder, il faut pas enlever une chose, c'est déjà que l'équipe est particulièrement en santé depuis le début de l'année. Il y a eu très peu de matchs manqués par les joueurs principaux. Ensuite, ce qu'il faut retenir actuellement, et là où on peut se dire qu'il superforme un peu, c'est dans le clutch où Chris Paul est monstrueux et où on a un line-up qui est avec les trois guards et Gallinari et Steven Adams, le meilleur NBA actuellement et même depuis un bon moment maintenant et qui outscore quasiment tout le temps l'adversaire. Et en fait, c'est une équipe qui sait gagner des matchs, peut-être même mieux que les années d'avant. C'est ce qui est dur à dire, mais... t'as une vraie impression que les matchs contre les équipes plus faibles, on sait les gagner. Même si c'est serré, même si on est en difficulté, on va trouver l'ajustement et le line-up qui va marcher, notamment ce line-up avec trois meneurs. Et on arrive très bien à gérer ça. Et autre chose à retenir, c'est que le projet, en fait, sur les jeunes, continue de grandir, même si on est compétitif cette année et que les quatre jouent beaucoup. C'est-à-dire que Shai a une importance monstrueuse dans l'attaque et dans l'effectif. On voit l'apparition de Lou Dort, qui est le two-way contract, qui a eu le plus gros rôle, je pense, dans l'histoire des two-way contracts. C'est celui qui a starté le plus de matchs, c'est celui qui a un rôle, voilà. Il a vraiment un gros rôle dans cet effectif-là. Il y a Beasley, quand il est pas blessé, qui est sur le terrain. Il y a encore du Ferguson, Diallo, qui y font des apparitions. Donc, en fait, le projet sur long terme continue de grandir. Et en même temps, on profite de Chris Paul, de Gallinari, mais aussi de Schroeder et Adams qui font des très bonnes saisons maintenant pour être compétitif et on pourra se former en playoff ensuite vis-à-vis des jeunes. Et là, comme tu l'as dit, par contre, le titre est loin d'être accessible. Ça sera sûrement une sortie au premier tour. Mais je commence de me dire qu'on peut embêter pas mal d'équipes sur ce premier tour. Moi qui voyais peut-être qu'un sweep et je commence de me dire qu'on peut gagner pas mal de matchs.
Ah, c'est sûr, surtout dans ce que tu disais avec le clutch, etc. Mmh. Le Thunder va pas être forcément facile à prendre. Du coup, Madiane, question un peu similaire. Comment toi, tu la vois cette saison du Thunder? Est-ce que ce noyau de vétérans avec CP3, Gallinari, Adams, Schroeder, est-ce que on va les garder cet été? Est-ce qu'on va jouer avec les assets qu'on a acquises l'été dernier? Comment tu le vois, toi?
Moi, je trouve qu'ils sont en avance, en fait, sur leur timing. Ils avaient une fenêtre de reconstruction qui s'était ouverte après le départ de leur franchise player. Et bon, bah, ils ont accumulé des picks, ils ont tradé leurs principaux joueurs. Et puis, bah, moi, je me dis, bon, bah, ils ont pas mal d'assets. Maintenant, ils ont des joueurs plutôt bons, mais qui vont sûrement bazarder en cours de saison. Et puis, ils vont faire une saison un peu quelconque. Et en fait, non, ils construisent, ils développent plein de joueurs. Justement, Pierre le mentionnait, ils se construisent plein de nouveaux joueurs et ils ont de quoi faire des énormes rotations, je trouve. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ça. Et en plus, bah, ils ont leurs anciens qu'ils n'ont pas tradés finalement, qui tournent extrêmement bien et qui font qu'ils sont très largement en play-off. Donc moi, je trouve que sur le projet, ils sont assez effrayants parce que Sam Presti, c'est un excellent GM. Il a pas appris, fait d'énormes conneries ces dernières années, clairement. Et les derniers trades, l'été dernier est une masterpiece, clairement, de sa part. Il est parti avec une très mauvaise situation et il en a tiré que du bon. Maintenant, voilà, pour moi, je suis pas dans sa tête. Je sais pas s'ils vont tout bazarder cet été ou pas. Je pense qu'en fait, s'il y a des bonnes offres, notamment pour Chris Paul, qui a quand même gagné énormément de valeur, je pense qu'il y a moyen qu'ils partent. Néanmoins, bah, ils ont développé leurs jeunes, ils vont les envoyer en play-off. Et par rapport à ce pronostic de play-off, faut faire attention, hein, parce que dans le clutch, c'est la meilleure attaque, la troisième meilleure défense. Et d'ailleurs, c'est étonnant, c'est beaucoup d'isolation. Ils font pas énormément de passes, justement, dans les périodes de clutch. C'est extrêmement intéressant de voir comment ils réussissent à gagner ces matchs. Et pour moi, face à une équipe qui n'arrivera pas à les mettre derrière énormément dans le match en playoff, ben, j'ai pas envie d'attaquer le clutch face à eux. Donc, faut faire attention parce qu'en playoff, tu peux vite perdre un de tes deux premiers matchs à domicile vu qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain sur un truc où bah, tu menais 13, ils sont revenus à 7-8 dans le quatrième et puis finalement, bah, en fait, dans le clutch, tu as perdu. Tu te retrouves un partout et tu pars à la Chesapeake. C'est pas la meilleure situation. Donc, faut faire attention. Ils peuvent prendre des matchs, ils peuvent vraiment, face à une équipe qui sous-performe, venir prendre un ou deux matchs et te foutre le doute.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, surtout sur la revalorisation de Chris Paul qui était vu comme un contrat presque toxique avec le montant de son contrat et qui finalement reprend une vraie valeur. Donc c'est une autre victoire du Thunder cette saison. Donc finalement, je crois qu'on salue leur performance. On va passer à la deuxième équipe de ce groupe. Une autre équipe qui a un peu surperformé par rapport aux attentes, c'est les Mavs. Les Mavs qui ont commencé très fort la saison, qui baissent un peu progressivement. Tout de même, là, dans le classement, ils sont 7e aujourd'hui. Mais ils ont quand même un matelas confortable avec le 8e avant de sortir des playoffs. Donc, question, on va repartir sur toi, Pierre, en alterne. Quel est le bilan pour toi de cette, notamment de l'association Porzingis-Luka Doncic, de ce début de projet côté Mavs?
Alors, bah, déjà, Doncic, enfin, on en a le peu qu'on en a parlé dans le podcast. Il n'y a pas grand chose à dire sur sa saison, surtout son début de saison digne d'MVP. Là, il a baissé un peu de rythme et il a eu quelques soucis physiques, mais ça reste un joueur dominant de la ligue pour de nombreuses années, je pense. Et il peut les porter, je pense, en playoff. Il peut inquiéter lui aussi des équipes à lui tout seul. Après, pour Porzi, je suis un peu moins convaincu. Je trouve, il y a des matchs, il va être très bien, il va être agressif offensivement, il va faire ce qu'on attend de lui, la vraie licorne. Et il y a des fois, il va être plus absent. Même des fois où Doncic n'était pas là, je l'ai trouvé un peu plus absent, un peu moins présent. Et j'aurais aimé qu'il tire un petit peu plus la couverture à lui. Et là, par contre, où je suis surpris des Mavs, et c'est l'un des doutes que j'avais vis-à-vis d'eux sur le fait qu'ils soient très hauts cette année, c'était sur les autres role players. Et là, je suis surpris en fait de pas mal de joueurs qui montrent qu'ils sont capables d'être des très bons role-players. Le système Mavs les utilise particulièrement bien, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui est blessé, il y en a un autre qui va prendre la place. Enfin, voilà, là, on a eu Seth Curry qui a fait un match exceptionnel le dernier, même si c'était
incroyable.
Une défaite. Hardaway Jr. a fait des bonnes perfs, mais Maxi Kleber fait des bons passages.
Jalen Brunson.
Ouais, en fait, tu vois, tu peux faire une très longue liste de joueurs, de role-players qui vont s'exprimer un petit peu chacun leur tour et qui vont permettre à Dallas de gagner des matchs, parfois sans Doncic et parfois sans Porzingis, là où on les attendait pas du tout. Donc c'est une équipe aussi qu'il faudra faire attention en playoff, bien que ouais on les met clairement en dessous des autres équipes qu'on va parler après, mais ouais c'est une saison plus que satisfaisante je pense pour eux, et eux aussi sont peut-être encore en avance sur leur projet. Après la blessure de Powell leur pose peut-être une problématique, leur plafond sera plus bas bas. Ils ont du mal à trouver, je pense, une solution. Il faudra mettre Porzi en 5, ce qui est pas ce qu'ils préfèrent. Enfin voilà, c'est peut-être un peu un élément fort de cette saison qu'il faudra pas négliger peut-être en playoff.
La même question pour toi, Madiane, avant de te laisser développer un peu ce que t'as pensé de cette saison des Mavs. Je rajoute une question supplémentaire. Du coup, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent viser pour continuer à progresser du côté des Mavs?
Alors moi, j'ai critiqué énormément en fait l'effectif des Mavs. Pourquoi? Parce que quand t'as Doncic en contrat rookie, enfin pour moi, vas-y, vise le titre. Tu peux balancer deux contrats max à côté et en avoir rien à faire. Parce que justement, bah, il coûte pas cher le gamin. Et moi, j'ai été extrêmement déçu de ce qu'ils ont fait, des contrats qu'ils ont signés, de la longueur des contrats qu'ils ont récupérés. Parce qu'au bout d'un moment, bah, le petit Luca, il va signer son contrat max et il n'y aura rien à dire là-dessus. Et tu auras peut-être loupé une fenêtre de tir un poil plus simple, peut-être. C'est un truc qu'ils auraient pu faire. Ils l'ont pas fait. Là, ils sont bloqués pour cet été. Donc, je pense qu'ils vont être bloqués avec ces joueurs-là. Moi, Porzingis, c'est pas une valeur sur laquelle j'aurais investi. Et je suis d'accord, il peut être très bien, mais il peut être très frustrant. Et il en fait presque plus que ce que j'aurais attendu. Moi, j'en attendais pas grand-chose cette année. Parce que pour moi, un mec de 2m20 qui se fait les ligaments croisés, c'est très tendu. Et bon, bah, ça va, ça passe. Mais néanmoins, il bloque énormément de sous. Et de sous pour une valeur qui, pour moi, ne m'intéresse pas énormément. Je pense qu'ils auraient plus intérêt à avoir un mec moins cher. En fait, tu as besoin d'un mec qui défende plutôt bien, qui soit un protecteur de cercle et qui soit pas. Et qui puisse switcher en défense. Et tu n'as pas besoin de plus pour jouer le pick avec Luka. Et. Porzingis, c'est un 4. Enfin, tu le maximises pas avec Doncic. J'ai pas l'impression que ce soit un énorme fit. Et c'est pour ça que je suis pas fan de leur construction. Après, je les voyais pas en playoff. Ils y sont, c'est très bien. Par contre, je vois très mal comment ils passent le premier tour parce que c'est quand même le Luka Doncic FC et ça peut vite mal tourner en fait en playoff. Quand ça tourne trop autour d'un seul mec, il va s'épuiser quoi dans ces batailles là. Et non, enfin, ils vont pas réussir à aller très loin. Après, peut-être qu'ils pourront me faire mentir, ils pourront peut-être passer un tour, mais il y a un moment, il y a des équipes bien plus solides. Et là où le Thunder, je les vois plus prendre un match ou deux, être plus fort, les Mavericks, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite leur première série.
Ça dépend un peu de Doncic, comme tu disais, évidemment, il peut arracher un match, on sait jamais, en étant stratosphérique, mais ouais, je suis assez d'accord sur le bilan. Ils doivent une grande partie de leur performance à Luka Doncic pour le reste de l'effectif. On est un peu entre deux, c'est-à-dire que, comme tu disais, Pierre, les roleplayers, on est plus que satisfait, parfois surpris de l'apport de certains, et en même temps, la construction des ce qu'on pourrait appeler les lieutenants, ça manque peut-être de quelque chose pour viser plus haut avec un Doncic qui est déjà très 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 haut en termes de niveau NBA.
Après, par rapport à ce que tu disais, Madiane, tu vois, Doncic est déjà plus haut qu'il devrait être en fait. Donc ouais. Je pense qu'ils étaient dans une situation intermédiaire où ils savaient pas.
Ils ont été surpris
encore,
aussi.
Ouais, je pense qu'ils ont été surpris. Et s'ils savaient que Doncic était là, bah ouais, là par contre, fallait envoyer tout pour jouer le titre parce que t'es un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc là, ils se sont fait peut-être un peu prendre à leur propre jeu. Et pour Porzi, en fait, niveau des attentes, c'est que physiquement, il a l'air plus ou moins de tenir. Alors il est géré parfois par passage. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire, bah voilà, maintenant j'en attends de lui puisque physiquement, ça a l'air d'aller. Là où j'avais des doutes beaucoup plus au début de saison sur son physique, là où ça tient.
Belle conclusion, on va pouvoir passer à la troisième équipe du groupe. On l'attendait un peu plus celle-là, cette équipe, à ce niveau-là en tout cas. On part du côté de l'Est. C'est les Pacers, qui font une très bonne saison, malgré les quelques absences de Ladipo notamment. Ils ont retrouvé leur franchise player. Ils s'annoncent quand même comme un petit poil à gratter, eux aussi, du côté des playoffs à l'Est. Alors en question, je sais pas lequel de vous deux veut commencer, peut-être Madiane, tiens, on change. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer donc du côté des Pacers?
Moi, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent espérer grand-chose en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le retour de l'Oladipo, on voit déjà qu'ils ont un peu du mal à trouver leur rythme de croisière de nouveau. Ok, il revient, mais on voit clairement qu'il est pas dedans. Il a du mal et ça va quand même être compliqué pour eux de jouer. En fait, ils vont être chiants, ça va être le poil à gratter, mais je les trouve pas insurmontables. Pour moi, c'est un check, mais c'est un check qui est pas vraiment compliqué à passer. Et justement, j'aimerais bien faire cette analogie par rapport à l'an dernier, parce que pour moi, c'est la même chose. C'est un check, mais les Celtics l'ont passé. Et pourquoi les Celtics l'ont passé? Parce qu'ils ont réussi à les verrouiller offensivement, parce qu'offensivement, ça a tourné moyennement bien. Et une fois que t'as réussi à les lock, bah en fait, c'est fini, quoi. Et offensivement, ils n'ont pas une puissance de feu suffisante. Donc, il suffit de réussir à défendre sur eux. Et pour moi, même une équipe comme les Sixers qui ne va pas très bien, ils ont juste besoin de défendre à peu près convenablement et ça, ils vont les passer. Donc, en plus, il y a la blessure de Lamb. Donc, ils ont encore perdu un asset qui aurait pu être intéressant pour eux. Moi, je pense qu'ils ne sont pas assez puissants offensivement pour pouvoir espérer beaucoup de choses. Donc, je suis inquiet pour eux. Moi, je pense que ça peut vite finir en 4-0, alors qu'il y aurait eu, cette blessure, avant le retour d'Oladipo, j'aurais pu espérer plus d'Oladipo. J'aurais pu espérer que ça se passe mieux. Là, j'ai l'impression quand même que ça va quand même très vite tousser et qu'ils peuvent finir des matchs en dessous des 90 points.
Pour compléter un peu ce que dit Madiane, pour te relancer Pierre, je vais rajouter un peu une question aussi, c'est que la base de l'effectif des Pacers actuellement, donc c'est Malcolm Brogdon, Oladipo, Sabonis, Miles Turner, grosso modo la base, les fondations. Alors c'est une bonne base, c'est des bons joueurs, mais est-ce que finalement c'est pas un peu court, est-ce qu'il va pas falloir prendre des risques?
Peut-être. On sait que de toute façon c'était pas de base effectif le plus talentueux et complet, notamment à l'Est avec les grosses franchises qui avaient monté des gros effectifs là cette intersaison. Après on sait qu'Indiana depuis, et on l'a vu notamment sur le début de saison, un petit peu moins maintenant, c'est une équipe qui est bien coachée, qui joue bien, qui met bien en valeur tous ses joueurs. Là ils ont réussi à peu près à faire cohabiter Miles Turner et Sabonis, bon plus au profit de Sabonis ça c'est certain, mais voilà ça fonctionnait plus ou moins. Là ils sont un peu plus en difficulté, et je rejoins ce qu'a dit Madiane, Oladipo c'est un petit peu compliqué pour l'instant, la réhabilitation va être un peu plus longue, il a encore jusqu'au playoff. Brogdon était un peu moins en forme ces derniers temps qu'au début de saison, il était vraiment très fort, on l'avait mis un petit peu en All-Star je crois d'ailleurs, donc ouais là c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Alors maintenant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tenter, je sais pas, parce que je vois pas quel profil en fait leur permettrait de basculer vraiment dans le groupe du dessus, notamment à l'Est, qui où pour moi les équipes sont bien plus complètes, même Miami qui s'est bien renforcé, on va en parler. Donc je sais pas, après comme tu l'as dit ça sera une équipe poil à gratter qui sait gagner des matchs, qui a un style de jeu assez atypique et même un effectif atypique, parce que quand tu fais jouer Sabonis et Turner en même temps, pas toutes les équipes ont le matériel pour les défendre et ça peut poser problème, donc ça peut être un peu compliqué pour certaines équipes de les jouer, mais je les vois ouais clairement un cran en dessus, mais c'est pas une saison complètement décevante pour eux.
Ouais voilà, ça va être une équipe qui gagne les matchs que les autres vont perdre en fait. Si voilà. Une équipe perd son match en n'étant pas dedans, les Pacers, on connaît leur niveau plancher, leur niveau plafond n'est pas très éloigné en fait. Ils vont tout le temps être à peu près au niveau où on les attend, donc effectivement poil à gratter. Et donc groupe suivant, maintenant on va passer un petit cran au-dessus, un bon cran au-dessus probablement pour la plupart des équipes. C'est un groupe de 6 équipes, groupe assez large. On a donc les Nuggets en 11, puis le Heat, les Sixers, les Raptors, le Celtics et enfin le Jazz. Donc un groupe qu'on pourrait qualifier de contender, on va dire, sans être favori bien sûr. Je vous propose de commencer par l'équipe qui est en haut du classement au moment des votes, et qui je pense serait un peu plus bas si on refaisait le classement aujourd'hui, puisque leur dynamique est un peu contre eux en ce moment. Ils étaient sur 4 défaites de rang, ils ont battu Washington hier, il me semble. C'est le Jazz. Alors, messieurs, question, que se passe-t-il au Jazz? Madiane, on va commencer par toi. Question un peu provocatrice, est-ce que le pari Conley est un échec?
C'est un échec. Voilà, je vais pas être très agréable. Moi, je comprends pas déjà pourquoi ils continuent de le faire starter. On voit bien que ça marche pas. Bah, en fait, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de le faire starter, puis ils l'ont refait starter quand même. Enfin, ça marche pas. Point. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. J'ai l'impression qu'il est moins physique. Il a du mal physiquement. Il a eu pas mal de petits pépins et il a du mal physiquement. À côté de ça, il a pas l'air de fit en fait. C'est une affaire de fit et il fit pas avec cette équipe. Et j'ai l'impression qu'en fait, je préfère avoir Mitchell en meneur de jeu dans cette équipe. Et voilà, ça fit pas. Moi, je pense qu'en fait, il pourrait mieux les aider depuis le banc. On voit bien que quand on fait revenir Ingles avec Royce O'Neal, le 5 tourne bien en fait. Et quand Conley était pas là, il gagnait des matchs. Après, moi, j'ai l'impression que dès qu'il tombe sur une équipe un peu forte, ils perdent. Et ils perdent largement. Donc, ils vont battre toutes les petites équipes. Alors, super, ils ont gagné contre Washington, mais ils vont rien battre de sérieux. Et le problème, c'est qu'à l'Ouest, il n'y a que des gens très, très sérieux. Et ça ne va pas le faire quoi, pour les playoffs. Et j'ai l'impression que c'est effectivement un échec. Et que le Parry McConley. On pensait que ça leur ferait passer un cap. On se disait même, avant le début de la saison, est-ce que c'est pas le meilleur joueur du Jazz? Ben non, en fait, c'est pas le meilleur joueur. Donc voilà, et il faut voir comment ils vont se reconstruire, parce qu'à côté, en fait, Bogdanovic, il apporte plus que ce qui était attendu. Donc en fait, c'est un peu triste, quoi, pour eux. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plutôt ce pari-là qui échoue, et finalement, en fait, c'est Mike Conley qui échoue au Jazz. Moi, je pense qu'il n'est pas fait pour cette équipe, et que bah, quand tu passes de Marc Gasol à Rudy Gobert, c'est trop dur, en fait, de t'adapter.
Ouais, c'est ça, c'est ce que mentionnait Tom, je crois, dans les previews. Ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué.
Il a trop joué avec Marc Gasol, et en fait, Marc Gasol, c'est un autre skill set, c'est d'autres choses qui sont attendues, et il n'arrive pas à s'adapter. Et on voit bien, et on voit même des séquences assez incroyables. Moi, ça me tue, où tu vois Rudy Gobert en train d'agiter les bras sous le cercle après un pic, il est tout seul, il n'y a pas une passe à l'intérieur qui arrive. J'ai l'impression que, enfin, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe, et c'est un peu triste, quoi.
Ouais, ce qui rajoute à la frustration, c'est que justement, on attendait de ce transfert de McConley que le Jazz passe un cap et passe de contenders, ce qu'ils étaient déjà l'année dernière, à presque favoris pour le titre. Et manifestement, ils sont presque au même point, sauf qu'en plus, ils ont absorbé le contrat de Conley, qui va avoir en plus une player option à 34 millions l'année prochaine, qu'ils devraient prendre, hein, j'imagine. Donc voilà, même question, Pierre, qu'est-ce qu'on fait si on est du côté du Jazz?
Non, Mike Conley sur le banc, je pense que ça a pu lui permettre de prendre de la responsabilité, de relancer leur banc aussi, parce que si t'enlèves Jordan Clarkson, il y a peu d'apport au scoring et offensif. Royce O'Neal, j'aime bien, mais ça, il va être surtout très utile pour défendre sur les ailiers à l'ouest et pour mettre un ou deux tirs. Voilà, c'est vraiment le joueur de complément ultime, mais en sortie de banc, il aura pas un impact énorme, en fait. Peut-être moins que dans le 5, d'ailleurs. Donc, je pense que, ouais, le mettre sur le banc en duo avec Clarkson, trouver des solutions aussi, parce que Inglès est très important dans ce groupe-là, et ça, on l'a vu depuis plusieurs années, et il y a une vraie différence des moments où il est dedans, il a la balle en main, il crée, il prend ses tirs, et il est vraiment dans son match, où il ne l'est pas. Bogdanovic, comme Madian l'a dit, il est très bon. Mitchell, il fait une très bonne saison, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais
il est vraiment fort.
Rudy Gobert continue de faire dans ce qu'il fait depuis pas mal de saisons, donc de niveau All-Star. Donc en fait, tu vois très vite qu'il y a 2-3 points faibles, mais qui sont criants dans cette équipe-là et qui pourront coûter très cher en playoff. Et que, bah ouais, le pari Mike Conley, pour l'instant, il n'est pas réussi. Est-ce qu'il va se réveiller en playoff? J'y crois de moins en moins parce que, comme on l'a dit, il y a un petit peu ce déclin physique et c'est flagrant avec lui, sachant que c'est pas le joueur le plus grand, le plus costaud, le plus massif. Ça va devenir très vite compliqué. Et encore une fois, s'il tombe contre certaines équipes en playoff, typiquement contre Houston, ça va être très 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 compliqué.
Et franchement, moi, ce qui me rend très triste, c'est que je me dis, mais tu changes juste, enfin, c'est une décision cet été, alors ils auraient jamais pu la prendre, ils auraient pas pu savoir, mais tu mets juste Chris Paul à la place de Conley. Mais franchement, c'est un délire, l'équipe, et on est passé à ça, franchement.
Et donc frustration du côté du Jazz, je crois que ce sera un peu le maître mot. Et constat inverse pour la prochaine équipe, on reste à l'ouest avec les Nuggets. Alors ils sont dixièmes dans notre power ranking, et pourtant là actuellement ils sont deuxièmes du classement à l'ouest au moment où on enregistre. Donc ma question est simple, sur la base de ce constat-là, est-ce que les Nuggets c'est une équipe simplement de saison régulière? Pierre, est-ce qu'on croit à leur chance en playoff ou non?
Bah, tu vois, c'est peut-être, t'as mis le doigt sur le bon point, c'est peut-être l'équipe qu'on a le moins d'espoir pour eux en playoff, alors qu'ils sont très bien classés, quoi. Les autres équipes qui sont derrière eux, typiquement les Clippers par exemple, on les met devant, les Rockets aussi. Peut-être qu'on se base sur les années d'avant, où on n'a pas été particulièrement, je pense, convaincu de leur performance en playoff. Après, c'est une équipe qui est complète, qui a des joueurs talentueux. On sait que Jokic peut être très clutch, qui peut être très dur à défendre, mais qui est très atypique. On sait pas vraiment, moi j'ai du mal à cerner cette équipe là des fois. Tu vas avoir Jamal Murray qui est capable de faire des matchs monstrueux et le lendemain de pas pouvoir mettre un tir, un pied devant l'autre. J'ai des doutes aussi sur la capacité physique de Millsap à enchaîner les matchs de playoff, parce que il vieillit. Alors t'as Jeremy Grant derrière, mais je pense qu'il est très important dans ce groupe là et ensuite il a été clairement remanié cet effectif à la deadline. Il y a eu quelques changements, on sait qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en partance cet été parce qu'ils auraient pas eu l'argent. Alan en avait parlé avec toi, je crois, Adrien. Donc il y a eu pas mal de remaniements et j'ai du mal à placer cette équipe encore comme un vrai prétendant au titre, bien que en saison régulière ils sont vraiment bons. Ils ont montré des bonnes qualités défensives, offensivement on sait il y a un vrai système mis en place autour de Jokic, ça fonctionne, mais on a peur en playoff. Et typiquement, si peut-être une équipe qui va se faire upset, ça sera peut-être eux.
Peut-être. Bah du coup, même question, Madiane. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. On voit quand même qu'ils utilisent avec parcimonie leurs jeunes. Je trouve que c'est pas. Enfin, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent par intermittence, comme tu le disais, qui sont capables de très bonnes soirées. MPJ, Michael Porter Jr. aussi dans ce style-là, qui des fois voit 20 minutes de terrain et est très très bon, puis le lendemain joue 5 minutes. Donc ils sont très durs à évaluer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Madiane?
Ah ouais, moi je pense que c'est une équipe de saison régulière. Enfin, ça tourne, hein. Je quitte, j'étais en forme. Ça marche bien. Ça marche même très bien. Mais ça a marché très bien l'an dernier. Et ils finissent c'est un 2-7, contre les Spurs l'an dernier. Et ils ont failli passer à la trappe quand même. Alors que les Spurs, franchement, ils étaient pas ouf.
T'as trouvé le moyen de parler des Spurs, bravo.
Et ils perdent contre Portland après.
C'est pas une équipe incroyable, Portland l'an dernier. On va pas se mentir. Donc moi désolé hein, mais réussir à passer contre les Spurs de justesse parce que Murray te sauve le match 2 à domicile, enfin c'est pas un énorme exploit. Et pourtant ils ont fait la même saison régulière, donc ouais, moi j'ai l'impression que ils vont nous faire la même, ils vont faire une excellente saison régulière. Mais moi t'as un 2-7 Nuggets Thunder, je pense que je mets ma piécette sur le Thunder hein, parce qu'ils vont jamais réussir à les mettre en dehors du match. Et après ben gestion de fin de match, faudra voir hein, parce que c'est compliqué aussi à qui tu files la balle à Murray. Ouais, mais s'il met pas dedans, c'est compliqué quoi. J'ai l'impression que même limite moi je finirais les matchs avec MPJ. C'est très compliqué aussi ça. Comment tu fais? Et moi je
pense que Jokic va devoir être vraiment très très fort s'ils veulent aller long.
Ouais, c'est ça. C'est franchement, j'espère pour eux qu'il sera très très fort parce que ça peut vite tourner au vinaigre cette affaire pour eux. Et ils m'ont jamais convaincu en fait. Et il y a un moment, je crois que ce que je vois, et ils m'ont pas convaincu. Alors ok, ils sont deux, c'est cool, mais ils sont moins forts que les Clippers, ils sont moins forts que Houston. Je les vois même moins forts que le Jazz.
Oula, ça c'est dur. Ouais, je vais quand même un peu pondérer ce pessimiste. Ça reste quand même une équipe, si tu les joues, si tu les tombes en playoff, t'es pas très content non plus de les avoir. Parce qu'effectivement, même si t'as des joueurs qui sont pas très constants, il y en a qui peuvent prendre feu très très vite. Et comme tu le dis, surtout qu'ils ont l'avantage du terrain, tu peux vite te retrouver à 2-0, voire 3-0 contre eux, comme ça. Et après, c'est très très compliqué de revenir quand même. C'est une équipe qui joue à la confiance. Des mecs comme Jamal Murray, c'est à la confiance, il peut être très fort. C'est un mec aussi qui a du caractère, donc... Ouais. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec vous, ils ont rien prouvé en play-off et c'est pour ça qu'ils sont assez bas dans notre classement de manière générale, mais ça reste quand même une équipe plus que correcte et qui mérite sa place dans ce groupe-là.
Ouais, mais dans le tu préfères jouer les Lakers, les Clippers, les Rockets ou les Nuggets?
Franchement, ah oui, bah ils sont le groupe clairement... en dessous, ils sont le groupe en dessous. Ah, ils sont dans notre groupe en dessous chez nous.
Ils sont deuxième, mais je t'assure que moi je suis une équipe, je les vois deux. Je fais tout pour être 7 parce que les trois autres, j'ai pas envie. Hein.
Est-ce la stratégie des Mavs qui descendent dans les standings? On le saura. Pour le reste de ce groupe-là, on va partir de l'autre côté et on va être au cœur de la meute. À l'est, on a donc les Celtics, les Raptors, les Sixers et le Heat. Je pense qu'on peut un peu les regrouper puisque selon les jours, selon les semaines, on voit l'une ou l'autre des équipes aller potentiellement titiller Milwaukee du côté de l'est, avec peut-être le Heat qui est peut-être un léger cran en dessous, on va dire. Question Pierre, du coup, quel est le principal adversaire pour la finale de conf parmi ces équipes? Est-ce que c'est les Celtics en pleine confiance, les Sixers malgré l'hécatombe de blessures en ce moment, mais qui ont quand même l'effectif, le matériel pour aller jouer les Bucks? Quelle équipe tu vois principal adversaire de Milwaukee?
Moi, il y en a deux qui se dégagent et je vais commencer par faire plaisir à Alan, mais les Celtics, je les trouve vraiment impressionnants et ils ont une construction d'équipe que je trouve vraiment très intéressante et qui risque de poser problème à pas mal de monde et qui risque de poser problème à Milwaukee en plus s'ils les jouent, de par les trois ailiers qu'ils ont, qui peuvent être très bons et dominants, notamment Tatum en ce moment qui
est incroyable.
Qui est vraiment incroyable. Brown fait une très bonne saison, très complet, très physique, défensivement il est vraiment bon, et tu vas compléter ça avec Hayward. Je pense que Hayward, moi, ça sera un gros facteur X pour eux lors de ces playoffs, parce que je trouve à l'aise dans l'attaque des Celtics. Il loupe parfois des tirs qu'il devrait mettre et qu'il met avant, mais dès qu'il les met, il fait des gros matchs en fait. Et donc pour moi, s'il est dedans en playoff et qu'il arrive offensivement à être efficace, ça peut être très compliqué de les défendre. On sait que Kemba va encore apporter du scoring. J'aime bien l'apport de Thaïs au poste de pivot, bien que ça reste quand même leur faiblesse. Mais ce principe des trois ailiers, en plus avec Marcus Smart qui sort du banc, je trouve vraiment une construction vraiment intéressante et qui sera très dur à arrêter en playoff, surtout si Tatum continue d'être aussi fort, en fait, d'être tirer le jeu des Celtics vers le haut. Et après, moi, le deuxième prétendant, c'est... Je suis vraiment impressionné, c'est les Raptors. parce que c'est une équipe qui sait gagner des matchs, tout simplement, et contre des bonnes équipes aussi, qui est capable de faire des gros comebacks malgré les pertes de cette intersaison. T'as Siakam en superstar, mais à côté, t'as plein de joueurs qui sont tout le temps prêts à sortir de leur boîte pour faire gagner des matchs. T'as Ibaka qui va sortir un gros match, t'as Kyle Lowry qui va provoquer la faute qu'il faut pour gagner le ballon. Il y a plein de petits détails en fait, qui font que cette équipe-là va être très compliquée à sortir sur une série de 7 matchs. Alors, c'est pas l'équipe la plus talentueuse, c'est ce qui fait pour moi qu'ils sont en dessous des Celtics, mais j'aimerais clairement pas les prendre en fait au premier tour, ni même en demi-finale de conf, là où je préfère peut-être jouer Miami et les Sixers, qui, vous l'avez déjà beaucoup, on l'a déjà beaucoup abordé dans le podcast, ont des problèmes niveau fit, niveau blessure aussi, et qui sont moins qui sont un peu décevants par rapport à ce qu'on pouvait attendre.
Bah, même question pour toi, Madiane. Qui sont les principaux favoris? J'imagine que les Celtics font à peu près l'unanimité.
Ouais.
Les Raptors sont peut-être au milieu. Est-ce que toi, le Heat, tu le mets dans cette catégorie-là ou tu les vois aussi un cran en dessous?
Moi, je les vois un cran en dessous, le Heat. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'ils ont bougé. Ça doit se mettre en place. Mais surtout, défensivement, je ne les reconnais pas actuellement. Enfin, je pense, vu au moins un ou deux matchs. C'est assez bizarre à regarder. Moi, j'ai l'impression que c'est pas en place, c'est pas frais. C'est la peinture, elle est sèche encore. Et défensivement, ça pardonne pas. Et là, ils prennent des points, mais je comprends pas. Enfin, vraiment, au début d'année, on louait leur qualité défensive. Alors, ok, ils mettaient énormément à 3 points, mais surtout défensivement, on trouvait ça trop bien. Ça jouait bien, c'était à l'image de Butler, ça jouait dur, ils étaient chiants. Et j'ai l'impression que du coup, là, ils ont un peu trop bougé et que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être perdu un point d'équilibre. Alors j'espère que ça va se mettre en place, etc. Mais pour moi, ils m'ont rien montré de super impressionnant. À côté
après, ils tentent des choses quand même.
Ouais, ils ont tenté.
Parce que par exemple, cette semaine contre les Mavs, ils ont fait un match en défendant en zone pratiquement complet, alors box and one ou des zones plus classiques. Mais peut-être on peut aussi se dire, comme tu dis, c'est moins en place, ça se voit. Est-ce que c'est Spoelstra qui expérimente des choses en vue des playoffs, par exemple pour jouer Milwaukee, ou est-ce que c'est vraiment une baisse de niveau global de l'équipe? La question se pose. Moi, je pense que quand même on peut.
Il a fait beaucoup de zones.
Il y a le matériel, il y a des joueurs, il y a toujours notamment Butler et on les a vus. Quand tu sais, t'as su bien défendre à un moment donné. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'un effectif qui n'a pas bougé ou très très peu, malgré quelques blessures par-ci par-là, puisse perdre à ce point-là sa défense. Donc, je pense qu'il y a aussi de l'expérimentation dedans, même si effectivement, il faut quand même s'en inquiéter.
Bah, ils prennent 129 contre les Hawks. Enfin, ils prennent beaucoup de points. Et en fait, Spoelstra est quand même utilisé beaucoup la zone. C'est l'un des coachs qui doit bien le plus utiliser cette année. Et peut-être que en fait, les nouveaux joueurs ont du mal à s'adapter à ce truc-là et que du coup, c'est encore en rodage, etc. Ok, mais c'est quand même inquiétant de te roder fin février, début mars 2020. Alors que tu vas très vite arriver sur la fin de saison. Si t'as besoin de te roder maintenant, c'est pas forcément bon signe pour la suite. Alors que les Celtics, ça a l'air de tourner. Et ce qui leur a manqué, notamment hier, c'est d'avoir un gars, un petit Kemba un peu clutch qui vient te prendre des points. Et franchement, ils nous livrent des excellentes prestations, Tatum est en forme, etc. Enfin, tu peux pas être au-dessus de Boston, clairement pas.
En plus, les Celtics, de ce qu'ils ont montré hier aussi, par exemple, ils ont un jeu qui sera adapté à la défense en playoff, qui va monter d'intensité, qui sera beaucoup plus centré sur les iso, qui aura beaucoup moins de passes. Enfin, quand tu vois hier, et c'est ce que forçait Houston aussi, on en parlera peut-être après, mais t'as presque que des iso, t'as que des 1 contre 1 de Tatum et Brown, le pick and roll, il sert juste à faire un pseudo-switch, et tu joues après, quoi. Alors que une équipe comme Miami a plus besoin de faire vivre la balle, plus besoin d'avoir des voilà de faire vivre, de chercher les shooters comme Robinson, de faire plus de choses en attaque qui seront plus compliquées de mettre en place en playoff. Et moi je me demande s'ils gèrent pas un petit peu aussi le 8, ils sont partis très fort. Là ils ont eu des renforts à la deadline, donc Roder et Iguodala qui essaient de retrouver du rythme. Mais tu vois, un Butler, il est géré, je pense. Adebayo, je pense qu'il va être géré aussi sur les derniers matchs parce qu'il a beaucoup de temps de jeu, il est très important. Donc à voir aussi comment ils gèrent leur effectif.
Et on a très peu parlé des Sixers, donc les Sixers qui sont sujets à pas mal de blessures. Il y a beaucoup de doutes au sein du podcast sur l'ensemble de l'effectif des Sixers et leur capacité à aller haut, mais quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est quand même un effectif solide, des très forts joueurs qui sont capables de grosses performances. Leur fit ensemble est questionnable, mais on a vu avant de se blesser Embiid qui a remis et retapé du poing sur la table. Est-ce qu'on n'y croit plus du tout aux Sixers, ou quand même, malgré tout, quand ils vont jouer en playoff. Si par exemple moi je suis les Celtics et que je suis de l'autre côté du tableau et que je vois que Milwaukee joue les Sixers, je me dis ah, il y a peut-être une chance qu'on s'évite Giannis.
Il y a pas de bouton on off. Enfin, désolé, mais la dernière équipe qui a réussi à un truc comme ça, c'est les Rockets de Hakeem Olajuwon. Si t'es pas bon et si t'es pas bon maintenant, tu vas pas devenir bon en playoff. Il y a pas de recette miracle. Simmons, moi je suis très inquiet parce qu'une blessure au dos, c'est jamais évident. Embiid, citez-moi un bon match, si tu peux en trouver, mais une belle campagne de playoff, une bonne série qu'il a faite, c'est aussi quelqu'un qui m'a pas montré énormément de solidité, de stabilité en playoff. Enfin,
t'es dur. Il a pas été aussi dominant qu'on peut l'espérer, mais il a pas été non plus.
Non, il a pas été nul, mais pour passer les Bucks, va falloir être dominant.
Oui, ah oui, ça c'est sûr.
Enfin, il y a un moment, ils me disent qu'ils visent le titre. Faut rouler sur les Bucks. Faut passer sur les Bucks. Et passer sur les Bucks, ça va pas être simple. Et il m'a pas montré la capacité. J'ai plus confiance dans les Raptors que dans les Sixers actuellement.
Moi, je pense qu'on en revient toujours à la même problématique de un petit peu fit. Il parlait peut-être de mettre Horford sur le banc et de commencer avec Korkmaz pour apporter du tir avec d'autres joueurs. Et en fait, ça va être indispensable pour eux d'au-delà des 5. On a parlé plein de fois de la responsabilisation de Richardson et d'Harris, mais aussi de trouver des joueurs, autres joueurs qui peuvent jouer en playoff et qui peuvent apporter notamment du tir, qui peuvent écarter un peu la défense adverse. Parce que là, ça va se marcher dessus, ça va être très physique. Alors, ils peuvent gagner la guerre physique, ça c'est sûr et certain vu l'effectif qu'ils ont, si tout le monde est en forme. Mais moi, c'est toujours la question que j'ai, quoi. C'est qui va jouer en playoff à part les 5. Et on sait que les 5 ensemble, ça marche pas toujours très bien. Ils sont pas aussi forts défensivement qu'on l'espérait. Offensivement, il y a des doutes. Horford, je le trouve bien moins bon que les années d'avant. Alors, il est toujours indispensable, il fait plein de choses. Mais c'est pas le même impact qu'avant. Et ouais, moi, je suis pas serein pour eux cette année.
Ouais, non, mais je partage aussi cet avis-là. Je fais partie plutôt des pessimistes de... au niveau de l'effectif des Sixers. Après, voilà, ils peuvent toujours nous surprendre. Moi, c'est ce que je leur souhaite. Mais effectivement, en plus, là, avec les blessures, on s'approche de la post-season, ça. On est en deuxième moitié de saison. Si t'as de plus en plus d'alternance comme ça entre dans tes joueurs qui sont là ou pas là pour garder une bonne dynamique, ça va être compliqué. Ils sont sur une moins bonne dynamique que, par exemple, les Celtics, qu'on voit, je pense, les meilleurs parmi ce groupe-là pour le moment. Donc bon, c'est à voir. Voilà pour ce groupe-ci. On va passer au-dessus. Il reste plus que 4 équipes. Si j'ai bien compté, il n'en reste plus que 4 et 2 groupes. Mais on a un groupe avec une seule équipe qui est toute seule dans son groupe au moment où on a fait les votes. C'est important à préciser. Ce sont les Rockets. Les Rockets qui font beaucoup parler en ce moment avec Russell Westbrook, qui est cher à ton cœur, Pierre. Et un James Harden cher au mien, si on veut, de Stomanian. Bon, en tout cas, je vais pas m'étaler. Je vais simplement... voilà, le choix drastique qui a été fait à la trade deadline de jouer, on en a parlé, le small ball à outrance, ouvrir la raquette pour Russell Westbrook avec des shooters autour, c'est très intéressant niveau tactique. On voit beaucoup de choses de leur côté et aussi en face sur comment les équipes s'y adaptent. Pierre, je commence par toi. Jusqu'où elle peut aller cette tactique ?
C'est la grande question en fait, et ça va dépendre de petits détails en fait. Ça va dépendre. La première chose, défensivement, est-ce qu'ils seront capables de verrouiller le rebond ? Et dans le cas où ils jouent Anthony Davis ou peut-être Jokic, est-ce qu'ils seront capables de les arrêter ? Ça va être une vraie problématique, je pense, pour eux toute la post-saison. Là, ils vont essayer de s'adapter à ça, on va dire, sur les derniers matchs, pardon. Mais pour l'instant, ça marche parce que les joueurs ont, et c'est l'impression que j'ai parce que je les regarde beaucoup, depuis la trade deadline, une autre dimension d'intensité, beaucoup plus concerné en défense, beaucoup plus prêt, ce qui était perdu un petit peu avant quand il y avait Capella, quand il y avait les autres joueurs. Là, quand tu vois un Covington, l'apport qu'il a avec Tucker, tout le monde est bien concerné sur les switches, et par contre, à chaque erreur, c'est panier, mais voilà, c'est vraiment très intéressant ce qui est proposé. La limite sera là. La limite sera clairement là, parce que offensivement, c'est une équipe qui trouvera toujours un moyen de marquer des points, qui va vivre certes sur son adresse, mais on l'a vu par exemple même hier contre les Celtics, ils sont pas droits, mais ils gagnent quand même le match. Harden n'est pas dedans, n'est pas exceptionnel, mais t'as Westbrook à côté qui est sur une période monstrueuse depuis janvier, et c'est un des meilleurs Russell Westbrook que j'ai vu, peut-être même depuis sa saison MVP. Il était dans un rôle différent, mais là il est vraiment exceptionnel. Donc c'est une équipe qui a fait un pari gagnant pour moi. Jusqu'où ça va aller, c'est la question. Quel role player pourront apporter en playoff ? Est-ce qu'un Jeff Green, est-ce qu'un Carroll vont vraiment apporter ? On peut avoir le doute, mais rien que pour l'expérimentation, on doit les féliciter parce que c'est quelque chose qui est très très intéressant, et je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. C'est loin d'être une équipe maintenant qui regarde juste Harden dribbler, hein. Il y a plein d'autres choses tactiques maintenant.
Ouais, puis au-delà du côté fun, je vais un peu surenchérir sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'ils n'ont pas simplement trouvé la solution pour maximiser Russell Westbrook? Parce que comme tu disais, en début de saison, c'était Harden gagne les matchs. Si Harden met pas dedans, je schématise, hein, mais si Harden met pas dedans, ça va être plus compliqué. Là, ils arrivent maintenant à trouver le moyen de faire en sorte que Russell Westbrook soit pleinement épanoui et puisse s'exprimer dans son jeu. Et pour les jours, du coup, où les paniers à 3 points ne rentrent pas, ils ont une alternative avec Westbrook, qui est en plus dans une très grande forme. Toi, Madiane, qu'est-ce que t'en penses de cette stratégie-là? Je sais qu'elle t'inspire beaucoup.
Moi, je suis fan absolu de ce qu'ils font. Et on n'aura jamais vu un jusque-boutisme d'un GM avec son coach en NBA. C'est vraiment, enfin, les deux sont main dans la main. Et je sais pas où ils vont, mais ils y vont. Et ils y vont tout droit.
Ils sont tarés, ils sont complètement tarés, mais c'est vraiment énorme, quoi.
Non, mais un coach et un GM autant main dans la main, dans l'absolu de ce qu'ils voulaient, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Et moi j'adore, enfin désolé, hein, j'adore, et je pense que c'est les seuls à pouvoir se permettre ça, parce qu'en fait c'est les seuls à avoir Russell Westbrook. Et si t'as pas Russell Westbrook, tu peux pas faire ça. Jamais de la vie tu fais ça avec Chris Paul, parce que t'as besoin d'un pivot. Mais là, t'as Russell Westbrook, donc tu peux te permettre de faire ça. Et moi, désolé, voir Rudy Gobert défendre sur Russell Westbrook. Enfin, non mais désolé, mais c'est incroyable. Et attention, franchement, attention, parce que je pense que ils vont jamais s'ajuster. Enfin, vraiment. Enfin, ils vont aller au bout, ils vont pas s'ajuster, c'est à toi de t'ajuster à eux. Et, enfin... Ça peut partir au bout, cette affaire. Ça peut vraiment y aller. Et moi, Russell Westbrook, tu me dis que tu l'as jamais vu comme ça. Moi, ça me fait penser vraiment à la série qu'il fait face aux Spurs quand il doit les sortir en 2016. Enfin, vraiment, tu te fais tabasser par Russell Westbrook et en fait, tu n'arrives pas à répondre au niveau d'intensité qu'il te met avec son équipe. Ça me fait vraiment penser à ça. Et les Spurs étaient vraiment sans solution athlétique face à cette équipe du Thunder qui était extrêmement forte. Et moi, j'ai l'impression de revoir ce Westbrook-là qui te tabasse. Et en fait, tu peux pas respirer dans ton match. Et c'est très, très compliqué. Et je pense que c'est le joueur actuellement... Alors, peut-être, on en parle un peu plus maintenant, mais le plus sous-coté. Enfin, vraiment. Enfin, il est incroyable, Westbrook. Et il a arrêté peut-être de faire ces espèces de pull-up qui sont pas efficaces. Ou de chercher forcément à tout prix un tir à 3 points dans l'esprit du basket des Rockets. Non, là il attaque et il pose d'énormes difficultés aux équipes adverses. Moi j'adore. Et t'as une alternance intérieur-extérieur entre Westbrook et Harden et ça va être difficile d'avoir les deux qui passent au travers dans le même match, et avec un seul des deux, il y a moyen que tu perdes quand même.
Ben justement, on peut prendre le problème de l'autre côté, du point de vue des adversaires, c'était vachement intéressant. Toi, Pierre, qui a vu beaucoup de matchs notamment, qu'est-ce que t'en penses de mettre le grand? On a vu Rudy Gobert, on a vu Anthony Davis aussi, qui a été mis par les Lakers sur Russell Westbrook, donc de mettre le grand sur Westbrook qui va aller pénétrer pour ensuite pouvoir, avec des autres joueurs plus vifs, défendre les shooters. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est un espèce de box and one? Quelle est la solution?
C'est dur à dire que c'est la solution, parce que à chaque fois, Westbrook en a mis au moins 30. Enfin, tu vois, ça me paraît
oui, c'est vrai, ça a pas marché, oui, effectivement.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en interview. Mais la problématique vient aussi de PJ Tucker, et là il faut pas le sous-estimer non plus. C'est un joueur unique en NBA, c'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire à sa taille, l'impact physique qu'il a. On sait après les corners fouillés, voilà, mais c'est vraiment incroyable ce qu'il propose. Tactiquement, comment les arrêter? Je suis pas en fait, c'est peut-être la seule solution que tu as au final de mettre par exemple Rudy Gobert sur Westbrook, parce que tu peux pas le faire défendre sur un des autres joueurs, il pourra jamais sortir. Ouais. Tu sais que Westbrook, lui, il a enlevé le 3 points de son jeu, et ce qui fait d'ailleurs qu'il a les meilleurs pourcentages de jeu en carrière actuellement, c'est qu'il a enlevé le 3 points. Donc ouais, c'est ta seule solution, mais il a tellement... On pensait presque un peu sur le déclin, mais il a fait évoluer son jeu, il a encore un tel impact physique qui ça l'empêche pas de scorer. Même il passe plus les joueurs sur le premier pas, il va passer sur le deuxième dribble et finir en sautant, ce que peu de joueurs NBA peuvent faire, hein, d'ailleurs. Mais c'est vraiment incroyable. Et stratégiquement, tu vois, eux, c'est les Lakers qui, pour moi, vont leur poser le plus de problèmes. Parce que t'as un Anthony Davis qui, lui, pourra sortir. Les Clippers, ça pourra aussi poser problème, mais seront peut-être obligés de jouer un petit peu de small ball, et Harrell aura un rôle important. Mais une équipe comme Denver ou Utah risque d'avoir des problèmes pour défendre contre cette équipe-là, parce que voilà, ta seule alternative, c'est de mettre Rudy Gobert ou ton pivot sur Westbrook et de sortir ensuite pleine balle sur les shooters et c'est très compliqué. Ensuite, si Houston arrive à faire, comme sur certaines possessions, partager la balle, faire la passe de plus, peut-être faire jouer Westbrook et Harden ensemble sur des écrans, ça c'est quelque chose qui apparaît et qui est vraiment redoutable parce que le retard que provoque Westbrook
en tant que poseur d'écran, c'est
incroyable. Parce que du coup, le joueur reste dans la raquette, tu sais pas s'il doit sortir, tu sais pas ce qu'il doit faire, et ça pose un vrai problème vis-à-vis de l'écran pour défendre sur Harden. Donc en fait, il y a plein d'alternatives. Mike D'Antoni doit montrer quand même des ajustements, pas dans le sens ajuster son système, mais mettre en place des petites choses qui marchent. Là, par exemple, en ce moment, ils expérimentent beaucoup, ils font beaucoup. T'as Westbrook qui drive et t'as un écran sortant en fait pour un des joueurs. Ils sont deux quasiment dans le corner, il y en a un qui va faire écran pour l'autre et aucun joueur peut sortir sur le tireur à 3 points. C'est tout con, mais c'est presque indéfendable. Et du coup, il y a plein d'ajustements comme ça qui peuvent se permettre parce qu'ils jouent 5 out et c'est très intéressant à voir. Et tactiquement, voilà, moi, c'est... Pour eux, la grande étape, ça sera les Lakers. Vraiment. Derrière, ils peuvent poser problème vraiment à énormément de monde, en fait.
Quelque chose à ajouter, Madiane ?
Non, clairement. Enfin, on pourra passer aux autres équipes. Mais eux, ça va être l'équipe à regarder toute la fin de saison et tous les playoffs. Ils sont passés de l'équipe la plus chiante à regarder à l'équipe la plus excitante à regarder.
Pour les fans de basket, pour les fans de tactique, effectivement, ils sont passés l'équipe. Voilà, c'est le conseil de ce podcast. Alors, on a beaucoup encensé les Rockets. Hein, on dirait qu'on parle des candidats numéro 1, mais ils sont un cran en dessous. Il nous reste un groupe. Le groupe des favoris, évidemment. Donc, vous les avez reconnus, les deux équipes de Los Angeles, les Lakers, Clippers et les Bucks. Je vous propose de commencer d'abord à l'Est, avec les Bucks, qui sont un peu tout seuls dans ce groupe-là, donc dans leur conférence. Alors, par rapport à ce qu'on a dit dans le groupe d'avant, ils se dégagent quand même comme clairs favoris de la conférence. Est-ce que ils vont confirmer cette domination de saison régulière pour aller au bout ? Est-ce qu'ils vont vraiment enfin prouver, justement, eux aussi, en play-off, là où on les attend ? Madiane, comment tu le vois ?
Qui peut sortir les Bucks à l'Est ? Qui peut ? Et en fait, c'est cette question que j'arrête pas de me poser. Et à un moment, j'ai dit Sixers. Puis en fait, je me suis dit non, en fait, ils n'y arriveront pas. Et j'ai du mal à voir les Celtics avec les armes qu'il faut. Les Raptors, je pense qu'ils vont manquer d'un truc. Et je suis en train de me dire qu'en fait, personne ne peut les sortir. Et enfin, ils sont sur la base d'une saison. Et ils peuvent arriver à 70 victoires cette saison. Hein. Ils sont encore dans la course.
Oui.
Et ils sont extrêmement durs à battre. Ça joue bien. Même sans Giannis, ils y arrivent. Et en plus, Giannis, il joue pas tellement de minutes que ça. Hein. Parmi les gros joueurs.
Oui, il joue peu. Ouais.
Il joue pas tellement parce que des fois, les matchs, bah, ils sont finis.
Mais ils sont pliés avant. Un peu comme les Warriors à l'époque. Hein. C'est un peu la même problématique.
Ouais, mais ils jouaient Curry. Parce qu'en fait, les Warriors à l'époque... après l'arrivée de KD. Mais vraiment, enfin... Cette équipe est extrêmement impressionnante. Et... Elle me fait douter. Est-ce que je les vois pas trop bas ? Est-ce que finalement ils sont plus forts que ce qui donne l'impression ? Parce que en fait ils sont. Enfin, il y a combien d'équipes qui peuvent taper les 70 victoires ? Qui ont tapé les 70 victoires ? Il y en a pas énormément dans l'histoire de la ligue. Ils sont peut-être plus forts que ce qu'on voit et en fait on se focus peut-être trop sur Los Angeles, mais ça marche bien. Moi, comme dit, j'ai toujours un doute. Mon seul et unique doute sur cette équipe, c'est si Giannis ne fais pas un bon match, comment tu gagnes ? Eh ben, moi, j'ai peut-être l'impression qu'il n'y a pas la réponse d'un deuxième lieutenant, mais il y aura peut-être une réponse collective à ça. Et si jamais ils y arrivent, ça peut être très très vite compliqué. Donc, voilà, les Bucks, sauf un truc qui n'y arrivera pas, je les vois très clairement aller en finale NBA.
Il y a le fameux adage, hein, pour rebondir ce que tu disais, où effectivement c'est bien la saison régulière, mais s'il n'y a pas le titre au bout, qu'est-ce que ça vaut ? Donc Pierre, je vais te lancer là-dessus, puisque je pense que t'es d'accord, ils sont clairement favoris à l'Est. Est-ce qu'ils sont assez forts pour ensuite aller remporter le titre une fois arrivés en finale ?
J'arrive pas à les voir gagner, moi. Alors aller en finale, je pense que ça sera une énorme déception si on les voit pas arriver là, bien que je les vois pas avoir un parcours très facile. Ils gagneront pas toutes les séries 4-0, ça sera pas comme les Warriors ou des fois les équipes de LeBron, Miami notamment, qui se baladaient. Je les vois avoir un parcours quand même minimum compliqué, mais autre chose que les finales, ça sera catastrophique pour cette équipe-là et ça posera question peut-être à Giannis sur son avenir. Après, en finale, j'ai trop de mal à les voir parce que c'est pas l'équipe en laquelle j'ai plus confiance, notamment vis-à-vis des dernières années. Chris Middleton en seconde option, pour moi, c'est l'année là où il doit se montrer qu'il est capable de l'être, parce que là il a fait une très bonne saison. Bon, il a deux trois bobos, mais là il doit vraiment prouver que c'est la deuxième option qu'il faut à Giannis. Collectivement, comme tu as dit, Madiane, ils peuvent trouver des solutions, mais en playoffs. Enfin, Connaughton, par exemple, il est très bon, mais je suis pas sûr que tu le vois. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont moins de temps de jeu, qui pourront beaucoup moins s'exprimer. Donc, ça sera peut-être plus difficile pour eux. Mais on arrive au final, et là, moi, j'ai plus confiance aux deux équipes dans lesquelles on va parler. Peut-être pas les Clippers, mais surtout les Lakers. Je crois plus en LeBron Davis qu'en Giannis, Middleton et toute la clique des Bucks. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que, voilà, j'ai encore... Qu'est-ce qui va se passer le jour où ben, Giannis n'est pas à droit, comme tu as dit, Madiane, où il sera un peu stoppé parce que les Lakers, par exemple, ont du matos à envoyer sur lui, où les tirs rentreront pas parce que défensivement, c'est en place derrière. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qui prendra le jeu à son compte? Comment ils vont répondre? Alors, cette année, défensivement, ils sont très, très, très impressionnants. C'est ce qui peut rassurer, je pense, pas mal de gens et ce qui me fait dire que les finales devraient être... ça devrait le faire. Mais arriver en finale, je ne sais pas.
Bah c'est la question, c'est à eux de faire mentir la règle de l'expérience, hein, donc, parce qu'au final on en revient à ça, c'est des joueurs où on ne sait pas encore s'ils sont capables, Middleton notamment que tu citais, de passer le step, d'être un vrai All-Star, puisqu'il a été en play-off, donc il sera attendu, et donc effectivement on arrive aux deux équipes qu'on voit peut-être plus proches du titre, les deux équipes de Los Angeles bien sûr, les Lakers qui sont premiers de notre classement mais qui sont un point devant les Clippers qui sont eux-mêmes un point devant les Bucks, donc c'est, tout ça est très très serré. Bon, peu de choses à dire qui ont déjà été dites je pense, mais tout de même va falloir se mouiller. À la trade deadline, les Clippers, ils sont quand même allés chercher Marcus Morris, alors que du côté des Lakers, finalement, pas grand-chose, ni de Derrick Rose, ni de Darren Collison, qui était attendu notamment pour soulager un peu LeBron à la main, notamment quand la seconde unité est sur le terrain. Donc, ma question pour toi, Madiane, je vais commencer par là, est-ce que le trade de Marcus Morris côté Clippers, est-ce que ça peut être la petite différence, le petit plus pour arriver au bout des playoffs?
Oui et non. Moi, je me pose des questions, en fait, parce que est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin à ce point? Et moi, je me pose des questions, en fait, sur...
C'est pas le profil qu'on avait visé pour eux quand on avait fait la preview de la trade deadline avec Alan. Hein.
Non, c'est pas le profil que tu vises pour eux. Alors, ils l'ont, ok, mais moi, j'ai peur que leur effectif ait un poil trop bougé pour cette fin de saison. Et comme dit, t'as pas le temps en playoff. Et moi, j'ai peur qu'en fait, ils aient trop bougé finalement, en comparaison des Lakers qui n'ont pas spécialement bougé énormément à part un buyout. Enfin, ils ont récupéré du coup l'autre Morris. Moi, j'ai peur que les Clippers aient trop bougé et surtout à quel point ils ont vraiment joué tous ensemble en santé cette saison. Et il y a le load management de Kawhi, ok, c'est vrai. Néanmoins, moi j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas assez joué ensemble. Alors sur le papier, je trouve que c'est l'équipe la plus forte. Clairement, moi j'ai pas de doute là-dessus, mais néanmoins, quand ça joue sur des petits détails et sur les automatismes que t'as, la vie de groupe, le fait d'avoir vraiment joué ensemble cette saison, bah les Lakers ont moins bougé et j'ai peut-être l'impression que c'est ce qui pourrait leur donner un avantage. Néanmoins, j'ai du mal à y croire quand même aux Lakers. D'un autre côté, des fois sur certains matchs, je les vois jouer, ils m'impressionnent pas. J'ai pas l'impression de voir une force. J'ai l'impression qu'en fait, il y a besoin que LeBron et AD soient à un bon niveau pour réussir. Et j'ai pas la sensation de voir une équipe un peu la sensation que les Bucks me donnent tout le temps et que les Clippers me donnent parfois, c'est que bon. Y a pas Kawhi, y a pas PG, on peut gagner. Giannis c'est pas là, ok, nous on peut gagner aussi. Les Lakers, c'est pas l'impression que j'ai. Et j'ai l'impression que ça repose un peu trop sur leurs deux ancres. Et c'est pas ce qu'il faut à mon sens pour aller loin en playoff. Alors, LeBron nous a montré que ça marche à Cleveland, mais
c'est ce que j'allais te dire.
Pour graver tous les marges de l'Ouest, là il a 35 ans, ça me paraît un poil plus compliqué. Donc Je suis un peu hésitant, c'est pour ça que à la limite je place les Bucks devant parce qu'en fait les deux équipes de Los Angeles me donnent des raisons de douter un poil plus fortes que les raisons de douter que j'ai pour les Bucks.
On a des raisons différentes. Après, comme tu le dis, Lakers, moi, c'est ce que j'allais dire aussi. Effectivement, LeBron a quand même prouvé sur 2-3 matchs que quand il avait décidé que ça allait être sérieux, c'est très, très sérieux. Alors, effectivement, pour vaincre dans le Far West, qui te porte bien son nom du coup de l'Ouest, ça va être assez épuisant à la longue de compter que sur ses stars. Mais ils sont quand même assez redoutables. Donc, question pour toi du côté Pierre, je vais le prendre dans l'autre sens par rapport aux Rockets qu'on évoquait juste avant, puisque c'est les trois grosses équipes qui devraient se retrouver dans ces playoffs à l'Ouest. Qui a le meilleur matériel s'ils se retrouvent face aux Rockets pour arriver à la finale de conf?
Ouais, je l'ai dit, les Lakers, parce que je trouve l'effectif bien construit. Alors, il manque peut-être un ou deux joueurs qui auraient pu avoir une dimension supplémentaire, mais là, on est quand même sur
ce petit meneur backup.
Oui, là, on est quand même sur du très très haut niveau. Après, comme Madiane l'a dit, c'est très construit autour de LeBron au niveau de la création. Davis, c'est très important pour les finitions, mais t'as des roleplayers autour. Type Danny Green qui le montre chaque année en playoff sont très très importants en fait, et j'aime bien en fait ce qu'il propose défensivement, et j'ai l'impression que voilà, cette équipe a trouvé un système comment jouer un petit peu comme les Bucks, et s'y colle et ça marche en fait. Et c'est là où pour moi les Clippers pêchent. C'est le meilleur effectif en NBA, les Clippers, mais c'est pas la meilleure équipe. C'est ouais. Collectivement, c'est
pas le meilleur collectif, hein,
voilà, c'est collectivement c'est moyen. Alors t'as plein de talents, mais le pick and roll de Williams à Rel, c'est plus aussi productif qu'avant, bien que ça soit encore fort, mais c'est plus, t'as plus la même hype autour de ça. T'as Kawhi qui est monstrueux, mais avec les autres, comment ça fonctionne? Et après, t'as le doute Paul George, parce que on parle de Kawhi qui a le load management, mais Paul George a pas joué énormément cette année.
Non.
Le peu qu'il a joué, c'est pas été souvent flamboyant non plus. Enfin, c'est pas le Paul George de l'année dernière. Ça, je suis bien placé pour le dire. Donc moi, j'ai des doutes sur lui, en fait, physiquement. Parce que je doute pas du talent et de sa capacité en playoff à être bon. Mais là, au niveau physique, j'ai pas l'impression de voir un Paul George à 100%. Et les playoffs approchent, en fait. Et lui, s'il est pas là, déjà, c'est pas les mêmes Clippers. Parce que, on le sait, offensivement, collectivement, ils ont du mal à s'exprimer. C'est pour ça, d'ailleurs, que des joueurs comme Reggie Jackson ou Maurice vont peut-être avoir leur importance. Parce qu'ils peuvent scorer un petit peu par eux-mêmes, notamment Maurice. Mais c'est pas la meilleure solution pour moi. Donc, j'ai plus confiance aux Lakers. Comme j'ai pu le dire, parce que voilà, il y a ces limites chez les Clippers, bien que l'effectif, ça on le dit depuis le début de l'année, je pense qu'à l'intersaison, je disais ouais, c'est même pas la peine, enfin, c'était trop costaud. Là, ils montent pas, ils sont pas assez satisfaisants. Après, Kawhi Playoff aussi, on parle de LeBron Playoff, Kawhi Playoff, c'est costaud aussi.
Ouais, mais attention, parce que peut-être que sa campagne, au vu de ce que je vois côté Raptors, était plus simple. Pour
oui,
lui.
C'est vrai, il est vrai. C'est vrai,
les Raptors sont une plus forte équipe sans Kawhi que ce qu'on imaginait. Donc peut-être qu'on a un peu plus surestimé ce qu'il a donné aux Raptors que ce qu'on pensait. Parce que franchement, là les Raptors, cette année, ils font une demi et.
Ils sont impressionnants.
Ils peuvent aller en finale. Hein. Ils peuvent y aller en finale de conf, pas être finale NBA. Mais du coup, est-ce que les Raptors sont pas plus forts que ce qu'on pense? Et peut-être que le playoff Kawhi, c'est peut-être pas, parce que c'est la première fois qu'il a montré ça, hein. Parce que le playoff Kawhi côté Spurs, hein, on dit ouais le system Spurs blablabla, bla bla bla, il s'est caché dans les gros matchs, faut pas oublier ça.
C'est un peu dur, mais oui, mais ce que je voudrais rajouter aussi une nuance par rapport à ce que tu disais, Pierre, entre les Clippers et les Lakers, c'est aussi une question de temporalité entre ces deux équipes, c'est-à-dire que les Lakers souhaitent gagner, mais les Lakers seront encore là l'année prochaine. Du côté des Clippers, on a un effectif qui est presque all-in sur une saison. J'ai envie de dire que comme tu dis, Lou Williams, Montrezl Harrell, tu vas pas pouvoir les garder, surtout à ce rapport qualité-prix pendant très longtemps. Et c'est un peu la même chose sur quand tu récupères Marcus Morris, etc. Je sais pas si tu vas insister pendant très longtemps. Donc du côté des Clippers aussi, il y a attention entre guillemets, parce que c'est pas un énorme danger, hein, évidemment. Il y a toujours qu'un seul gagnant chaque année, mais ça va être compliqué de gagner. Et pourtant, t'en as très très envie, t'en as peut-être plus besoin entre guillemets que les Lakers, qui sont sur un projet à court terme, mais sur plusieurs années quand même. En tout cas, bah voilà, je crois qu'on est arrivé à peu près au bout. Avant de vous remercier, je vais rappeler quand même le classement donc des 14 équipes qu'on vient de citer. Donc, je passais par le bas. Pacers 14, Thunder 13, Mavericks 12. Donc là, c'était premier groupe. Deuxième groupe, Nuggets, Heat, Sixers, Raptors, Celtics et Jazz, peut-être un peu haut, mais en tout cas qui sont cinquième. Rockets tout seul à la quatrième place derrière les Bucks et les deux équipes des Lakers. Et avant de terminer, je pense qu'on peut quand même se mouiller un peu, faire une conclusion, Madame Irma. À mi-saison, qui ira au bout, Madiane?
Oh, t'as plus qu'à mi-saison d'ailleurs là. Hein.
Oui, on a bien passé la mi-saison. Oui. Mais c'est le power ranking de mi-saison. Quand on a voté, ouais. C'est à peu près la mi-saison.
Les Bucks.
Alors Madiane, les Bucks. Pierre?
Les Rockets. Et je finirai par conclure qu'on va avoir des playoffs. Je pense qu'ils vont être très 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 intéressants.
Ah, c'est sûr. Ouais. Des deux côtés en plus.
Non. Après mon pronostic, si je devais mettre ma maison, je dirais les Lakers. Et si je devais mettre, si j'ai envie de parier, voilà, juste comme ça, je mettrais les Rockets quand même. J'ai bien envie de miser sur eux.
Eh ben moi je vais parier ta maison sur les Lakers parce que je vais être fidèle à mon adage on évoquait un peu plus tôt, ne plus jamais parier contre LeBron. Donc je ne parie pas contre LeBron.
Ce qui est un adage qui revient souvent et dans le Dunk Hebdo d'ailleurs. C'est
bah il a calmé beaucoup de monde hein, quand même avec son titre à Cleveland, il faut dire les choses, il a quand même bon, en tout cas, c'est sûr comme tu le disais, on va avoir des playoffs super intéressants des deux côtés, à l'ouest et à l'est, ça va être une vraie guerre de tranchées, donc on va se faire plaisir. Mais d'ici là, il reste quand même quelques mois de saison NBA, donc n'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter évidemment. On sera ravis de savoir ce que vous en pensez. Et avant de se dire au revoir, Pierre, un peu de promo pour le Up & Thunder. Qu'est-ce qui est au programme Qu'est-ce qui arrive
Petit épisode dans les prochains jours si vous écoutez ça. On va parler fin de saison, un petit peu des playoffs qui arrivent et des rotations à mettre en place. Voilà, pas mal de choses avec un nouvel invité.
Voilà, donc les fans du Thunder, vous connaissez le rendez-vous. C'est parfait, merci beaucoup, messieurs. Évidemment, on vous donne à tous rendez-vous dans le prochain épisode du podcast. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous nous écoutez.